Alors, frères et sœurs et amis, très heureux de vous retrouver après une si longue absence. Mon dernier passage parmi vous remonte au 1er février 2020. Ah, vous avez vieilli, hein? Enfin, je vous reconnais encore. Enfin, moi aussi d'ailleurs. Ah, je vois que vous persévérez avec le Seigneur. J'ai été émerveillé de la visite guidée de la salle à côté. Et vraiment, je ne vais pas dire je remercie, je ne suis pas directement impliqué, mais je suis reconnaissant à Dieu de ses frères qui travaillent dur, beaucoup, pour aménager ce beau local. Alors espérons qu'il va se remplir aussi. Alors nous sommes le 23 mai, oui, ça passe. Hein. C'est la fête des mères, dimanche prochain, pareil. Et notre calendrier indique que Pentecôte, donc ça a été rappelé tout à l'heure par plusieurs, par des textes bibliques. Pentecôte était une fête juive qui était célébrée le 7e dimanche ou le 50e jour après la Pâque. Mais la Pentecôte la plus décisive fut celle du 1er siècle à Jérusalem, après la résurrection de Jésus-Christ et 10 jours après son ascension. Ce fut un événement extraordinaire qui a marqué la naissance de l'Église. Les disciples réunis dans la chambre haute furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, 4. Et ils se mirent à parler en langue étrangère, aussi les juifs de la diaspora et tous les étrangers qui étaient en séjour à Jérusalem comprirent leurs paroles. Acte 2, 9 à 11. Résultat, vous le connaissez, 3000 convertis et baptisés sur le champ le même jour. On n'a pas eu le temps de faire une formation au baptême, hein, pratique un peu aujourd'hui, mais enfin bon, c'était pas nécessaire. Et nous sommes bien sûr admiratifs devant ce récit des actes, du livre des actes. Nous sommes envieux d'une telle puissance qui s'est répandue sur les disciples, d'une telle explosion, car tout de même 3000 personnes d'un coup, enfin si j'ose dire, ça n'est pas rien. L'Église a donc connu un départ fulgurant. Où en est-elle aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez le retentissement qu'aurait ce genre d'événement ici, au Creusot? Je ne sais pas quel est le journal local, c'est quoi? C'est toujours le Courrier de Saône-et-Loire, non?
JSM.
Le
Journal de Saône-et-Loire.
Ah, le Journal de Saône-et-Loire, oui. Ça a changé, oui. Tout change de toute façon. Alors imaginez la manchette mardi, parce que je ne pense pas qu'il y ait de journal demain. 300 convertis au Creusot. Je minimise un peu, parce que 3000, ça serait plus réaliste. Hein. Et pourquoi pas, le Seigneur est tout puissant. Ce serait le rêve. Ça aurait un impact. Il faudrait du coup changer de bâtiment. Les disciples de la Pentecôte, lisons-nous, en acte 2, furent remplis de l'Esprit Saint. Et nous, est-ce que nous sommes remplis de cet Esprit? La question est un peu curieuse, non? Est-ce que nous sommes en pleine forme spirituelle, sous-entendu? Est-ce que nous sommes gonflés à bloc, comme on dit, par le Seigneur? Ou est-ce qu'au contraire, nous nous sentons un peu faibles, fatigués, découragés? Les gens ne s'intéressent pas à l'Évangile. Il y a de l'opposition. Bref, est-ce que nous reflétons encore la joie du salut? Hein? Parfois, bon. Alors, nous sommes certes dans un contexte particulier, qui est général, qui est universel. Cette épidémie n'en finit pas. Les confinements à répétition, les mois de fermeture des commerces et des restaurants, quelques restrictions de nos libertés, et l'on peut penser et craindre que certaines de ces restrictions vont demeurer. Mais bon, qui vivra verra. Alors, une cohorte de dépression, de faillite, de suicide, de divorce. Oh là là. C'est-à-dire que cette irruption du virus a provoqué un coup d'arrêt dans la vie en général, inattendu. Mais notre vocabulaire s'est enrichi. Nous n'avons pas tout perdu. La pandémie, la distanciation, les gestes barrières, les clusters, enfin les clusters on dit, le confinement, le ou la Covid. Bref, nous mourrons moins bêtes avec tout cela. Mais comme dit un slogan d'une émission télé, nous mourrons tout de même. On nous dit que rien ne sera plus comme avant. Vraiment ? Il y a toujours des guerres dans bien des pays. La dernière en date au Proche-Orient. Des dictateurs sont toujours au pouvoir. Répression, persécution des chrétiens, etc. etc. Je vais fermer le petit journal, non pas télévisé, mais audio. Alors, nous allons plutôt nous tourner vers l'Écriture et lire quelques versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Donc un texte de l'apôtre Paul. Vous connaissez, je pense, mais qu'il est bon de relire, et en particulier aujourd'hui. Mais nous allons prier un instant avant de faire la lecture. Merci Père, parce que tu es là, et par ton esprit, tu peux ouvrir notre intelligence et notre esprit à ta parole, cette parole qui est vivante, qui est éternelle, et qui est notre guide de vie. Merci Père, de nous réjouir devant ces textes, de nous réjouir surtout devant tes œuvres, devant ta grâce, devant ton amour. Sois loué en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous lisons Éphésiens chapitre 5, versets 12 à 21. Oh non, prenons le verset 15, ça suffira. On gagnera 30 secondes. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous allons considérer ce texte en quatre parties. D'abord une question, ensuite la signification du verset 18, l'application de ce même verset, et enfin la manifestation. Paul parle ici de conduite. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Ce qui revient à dire, faites attention. Attention à la manière dont vous vous conduisez. Faites attention à vos paroles, à vos actes. Restez en éveil. Et pour nous le faire comprendre, l'apôtre recourt, comme bien souvent, à une opposition, un contraste, une antinomie, etc. Aussi est-il écrit, ne soyez pas insensés, mais sages. Ne soyez pas inconsidérés, c'est-à-dire stupides, mais comprenez, ou encore connaissez. Et ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, une question d'abord, question préliminaire, si l'on peut dire. Êtes-vous remplis de l'esprit, frères et sœurs ? Aïe, aïe, aïe. Ça commence bien. Alors qu'allez-vous répondre? Vous répondez pour vous-même et d'abord pour le Seigneur. Sans doute, l'Écriture le dit. Enfin, je pense. Ouais, ça dépend des jours. Ou bien alors, je ne sais pas. Ce qui est plus inquiétant. Êtes-vous de ceux qui ne savent pas comment ils pourraient savoir, bien qu'ils aimeraient savoir ce qu'ils ne savent pas? Bon, vous avez compris, il y a de la chance. Où en sommes-nous en ce 23 mai 2021? L'avertissement de l'apôtre est clair dans bien des passages. Ne pas nous laisser séduire par de faux docteurs, afin que notre témoignage soit compris par ceux qui nous demandent compte de notre foi. 1 Pierre 3,15. À quoi reconnaît-on aujourd'hui qu'un disciple est rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des signes extérieurs? Y a-t-il une norme? Le Nouveau Testament décrit-il le portrait robot du parfait petit chrétien rempli du Saint-Esprit? Il y a aussi des grands chrétiens. Être rempli de l'Esprit peut se résumer d'un mot en français, plénitude. Or, l'expression plénitude de l'Esprit ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. C'est le verbe remplir qui est utilisé. De plus, il apparaît que le remplissage par l'Esprit est variable, aussi paradoxal que ça paraisse, puisqu'en principe, si on est rempli, on est plein, dans le bon sens du terme. Pensons aux chrétiens de Corinthe. Ils avaient reçu, nous dit le texte, première lettre, le Saint-Esprit à leur conversion. Et il ne leur manquait aucun don spirituel. 1 Corinthiens 7. Vous ne pouvez pas en avoir plus, apparemment. Et pourtant, Paul les qualifie d'hommes charnels. Chapitre 3, verset 1. Ils n'étaient donc pas remplis de l'Esprit. En tout cas, pas en permanence. Et puis, bien des textes décrivent des attitudes répréhensibles vis-à-vis de l'Esprit. L'on peut, par exemple, résister à l'action du Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut mentir au Saint-Esprit. On peut tenter le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire de M. Ananias et Mme Saphira. Enfin, c'était un couple qui, comme ça se faisait à l'époque, où les disciples partageaient leurs biens, avec les autres disciples qui étaient moins favorisés, ils avaient vendu une propriété et promis aux disciples de leur donner le montant de la vente. Or, ils ont retenu une partie de ce montant pour eux. Et vous connaissez la suite. Monsieur Ananias en premier, eh bien, il est tombé raide. Sa femme, survenue un peu après, est tombée raide elle aussi. Peut-être une crise cardiaque, on ne sait pas. En tout cas, les apôtres n'avaient pas de défibrillateur, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je dois être impressionné par cet assistant sous la main. Donc, vous pouvez être rempli de l'Esprit aujourd'hui, peut-être moins demain, peut-être davantage après-demain, etc. Deuxième partie. Alors, que signifie être rempli de l'Esprit? L'apôtre écrit, verset 18, donc ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Au contraire, donc ça marque forcément une opposition. Quelques mots sur l'aspect négatif, ne vous enivrez pas de vin. Autrement dit, ne vous mettez pas en état d'ivresse, d'ébriété. Pas vous saouler, comme on dit communément. Alors, inutile d'épiloguer, un bourguignon aura compris ce que ça veut dire. Et heureusement que vous portez un masque, comme ça on ne voit pas si vous avez le nez rouge. L'ivresse est ici comparée à de la débauche. Mais est-ce que l'apôtre considère seulement l'aspect moral? Nous pouvons relier cela à une injonction plus générale. Soyez remplis de l'Esprit. Parce que, chapitre 4 d'Éphésiens, verset 17, vous ne devez plus marcher comme des païens. Il doit y avoir une différence. Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et verset 15 déjà lu. Conduisez-vous non comme des insensés mais comme des sages. Dans l'Antiquité gréco-romaine, les beuveries, les orgies étaient fréquentes et généralement liées au culte rendu à des divinités païennes. Et il y avait une sorte d'ivresse organisée qui caractérisait vraiment le paganisme. Et puis il y a d'autres cas. Il y a M. Noé aussi qui s'est perdu dans les vignes. Il y a les filles de Lot qui ont fait boire leur père. Enfin bref, vous connaissez tout cela. Et puis l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens, qui avaient donc tous les dons, le désordre qui régnait parmi eux au moment de la scène. Hein. Certains s'empiffraient, tandis que d'autres avaient faim, et puis certains même étaient ivres. Venons au volet positif. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Quatre caractéristiques brièvement. Tout d'abord, c'est un impératif. Soyez remplis. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un conseil fraternel, ni une suggestion bienveillante, ni une option facultative, ni une possibilité parmi d'autres. C'est un ordre qui vient de Dieu et qui est transmis par un apôtre investi de l'autorité de Christ. Donc nous devons nous soumettre à l'action de Dieu qui vise à nous donner, à donner plutôt à l'esprit, toute la place dans notre vie de disciple. Pas seulement une petite place, mais toute la place. Deuxième caractéristique, c'est que cette injonction est un pluriel. Soyez remplis de l'esprit. Elle s'adresse donc à l'Église, l'Église d'Éphèse ici. La plénitude de l'esprit, pour prendre l'expression, elle n'est pas réservée aux pasteurs, aux docteurs évangélistes, aux gratins, aux prophètes et tout ça. Elle est pour tout disciple. Elle est donc aussi pour nous, aujourd'hui, pour vous, pour moi. Troisièmement, c'est un présent. Soyez remplis. Et en fait, cet ordre est au présent continu en grec que l'on peut transcrire ainsi. Soyez constamment en train d'être remplis. Autrement dit, il s'agit d'une action qui dure et pas définitive. Il s'agit d'entretenir la flamme du désir, enfin du désir de plaire à Dieu, hein, pas qu'il y ait de confusion, du plaisir de plaire à Dieu, d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Alors il faut que nous sachions où nous en sommes quant au taux de remplissage, si j'ose dire. Ma première voiture fut une 2 chevaux Citroën, des années 50, imaginez le modèle. Mais elle m'a rendu bien des services, que j'avais acheté à un collègue de l'université. Et alors, il n'y avait pas de compteur pour voir où en était le niveau d'essence. C'était plus rudimentaire, c'était une jauge, c'était de languette caoutchouc qui trempait dans le réservoir, et qu'on pouvait atteindre de l'extérieur, bien sûr. Alors, de temps en temps, on s'arrêtait et on tirait la jauge. Puis parfois, il n'y avait plus rien au bout. Bon. C'est ainsi. Il fallait vérifier le niveau. Aujourd'hui, il y a des compteurs, on vous dit combien il reste de litres, combien vous allez faire de mètres encore, enfin de kilomètres. Quatrièmement, l'injonction est une attitude. Remplissez-vous d'esprit, écrit le texte original. Nous devons nous laisser remplir. Autrement dit, ne pas être un obstacle au remplissage. Alors, on va prendre une comparaison. Un nouveau-né, qui pesant en moyenne 3 kg, commence à respirer l'air atmosphérique à sa sortie du sein maternel. Un adulte, 1m70, c'est grand, 70 kg, respire lui aussi l'air atmosphérique. Le nouveau-né et l'adulte respirent le même air, même s'ils ne sont pas dans la même pièce. C'est-à-dire que leurs poumons à tous deux sont rythmiquement rempli d'air. Alors, où se situe la différence? Et la différence réside dans la capacité pulmonaire, qui est plus grande chez l'adulte. Et ce dernier sera plus rempli d'air que le nouveau-né. forcément. Alors, il en va de même dans la vie spirituelle, d'autant que le mot « esprit » dans la Bible est synonyme de « souffle », « pneuma », « pneumatique », « pneumonie », « Covid ». Ah non, c'est pas dans l'écriture, pardon. Quand un pneu de voiture crève, il expire, comme un être humain. Et puis le chauffeur, lui, perd son souffle. Il s'essouffle en installant la roue de secours. Enfin, aujourd'hui, c'est plus nécessaire, puisqu'il y a des kits de survie pour le pneu. Le nouveau-né en Christ reçoit le Saint-Esprit. Puis, au fur et à mesure de sa croissance spirituelle, il va mieux connaître Dieu, il va fortifier, acquérir une capacité plus grande, qui va lui permettre d'être rempli de l'esprit. Et ce n'est pas toujours aussi simple. Parce que la capacité n'est pas forcément entièrement utilisée. Vous savez ça, je pense. Vous savez qu'on peut respirer doucement. En utilisant surtout le diaphragme, hein, ce qu'on appelle la petite respiration. Voilà. Et puis on peut au contraire faire une respiration forcée, une grande inspiration, une grande expiration, etc. Quel genre, frères et sœurs, d'inspirateurs sommes-nous? Pas d'aspirateurs, il y a des points communs. Fonctionnons-nous à pleine capacité, c'est-à-dire à plein poumon? Ou nous contentons-nous d'un volume minimum qui sera suffisant pour survivre? Troisième partie, brièvement, comment être rempli de l'esprit? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a une recette? On peut toujours chercher sur Internet. Je ne vais pas faire. Partons d'une réalité fondamentale, c'est que l'esprit habite en nous dès l'instant de notre conversion à Dieu. 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous ne savez pas ? L'Esprit qui donc nous habite veut agir en nous et à travers nous. Mais il ne peut le faire que dans la mesure où nous le laissons agir. Dans la mesure où nous laissons prendre le contrôle de notre être, où nous nous soumettons à lui. Être rempli de l'Esprit implique d'avoir toujours conscience de la présence du Seigneur. Or, bien souvent, nous avons des moments d'absence ou d'oubli. Il s'agit d'être soumis au Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous contenter de dépendre d'une plénitude passée, par exemple, vous vous souvenez sans doute ou pas, de l'enthousiasme, de l'ardeur qui suivirent votre conversion. Tout feu, tout flamme, comme on dit. Puis chez certains, c'est un feu de paille, hélas. Nous ne pouvons pas non plus nous contenter d'une plénitude à venir, espérer, demander, mais incertaine. Ce qui importe, c'est de vivre la plénitude présente, aujourd'hui, parce que demain appartient à Dieu. Et puis comme disent les gens, demain c'est un autre jour, forcément. Dernière partie, manifestation. Comment va se manifester le fait d'être rempli de l'Esprit? Est-ce que nous allons voir des montagnes transportées à notre commandement? Ce qu'a dit Jésus? Souviens de la foi, comme, etc. Hein. Ou alors, est-ce que nous allons faire des expériences mystiques, individuelles ou collectives, spectaculaires? Ça arrive de temps en temps. Paul met ici, dans la suite du texte, « Soyez remplis de l'esprit, point virgule, entretenez-vous, etc. » C'est une manifestation du fait d'être rempli de l'esprit. Entretenez-vous, rendez continuellement grâce, vous soumettant. Oh non, vous soumettant, nous n'allons pas en parler. C'est un sujet qui fâche. Entretenez-vous, parlant les uns aux autres, et aussi chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est-à-dire l'esprit qui est en nous doit ouvrir notre bouche pour que nous parlions des choses du Seigneur, pour que nous les partagions avec les autres disciples. Il s'agit de communion fraternelle, s'entretenir. Il s'agit de vie d'église. Et puis l'apôtre poursuit, célébrer le Seigneur. Chanter, célébrer les louanges du Seigneur, du bout des lèvres, en marmonnant. Ah, il y a plus d'église, hein. Moment de prière, les prières, on n'entend pas. C'est presque des prières muettes, ce qui est un comble. Non, célébrer les louanges de tout votre cœur, écrit l'apôtre, c'est-à-dire avec joie, avec enthousiasme. Et puis rendez grâce. Rendez grâce à Dieu de temps en temps. Quand nous avons reçu un exaucement, ça arrive, heureusement. Alors, non, continuellement, nous dit l'apôtre, c'est-à-dire sans arrêt, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Nous nous rendons grâce en certaines occasions, plutôt, pour des événements heureux, pour un exaucement espéré, une guérison, un travail retrouvé, une réconciliation avec le conjoint. Enfin, de toute façon, nous avons la vaisselle en carton et en plastique soupe maintenant. Donc, les dégâts sont moins importants. Alors, rendez grâce continuellement, c'est-à-dire que c'est rendre grâce indépendamment des circonstances de notre vie. Vous pouvez être dans l'épreuve, sur un lit de maladie, c'est le cas de plusieurs frères et sœurs ici. Nous pouvons être dans le deuil, dans la persécution, et nous sommes invités à rendre grâce, ce qui n'est pas plus facile. Rendre grâce à qui ? À Dieu le Père. Rendre grâce comment ? Et ça nous ramène à la question de Madame Dorothea. Rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons par Jésus-Christ, si j'ose dire. Et l'Esprit Saint n'est pas mentionné ici, mais il intercède pour nous, parce que dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Rendez grâce en toutes choses. Alors, c'est tout un programme, n'est-ce pas ? S'entretenir, louer, rendre grâce. Cela exprime le remplissage, si j'ose dire. J'aime pas beaucoup ce mot avec le Saint-Esprit, mais enfin. Est-ce que ça nous aide à mieux comprendre ? Il ne s'agit pas de signes spectaculaires, comme nous venons de le dire. En 1994, je crois, il y a eu un vaste mouvement d'agitation, de soi-disant spiritualité plus grande, avait commencé à Toronto, au Canada, où des disciples se roulaient par terre dans l'allée centrale de l'église, aboyaient comme des animaux, etc. Et même les musiciens jouaient un morceau du carnaval des animaux de Saint-Saëns. Enfin bref, c'était du délire. C'est venu un peu en Europe, en France, mais ça s'est tassé. Bon, il y aura autre chose plus tard. Le critère d'évaluation d'une personne remplie de l'Esprit Saint est la Bible. Rien que la Bible. Monsieur le révérend Jean-Louis a cité tout à l'heure Galates 5, hein, c'est bien ça, que vous connaissez. Il est question du fruit de l'esprit, pas des fruits. Le fruit, c'est au singulier, il y a une raison. Et ce fruit de l'esprit, nous pourrions le comparer à une orange un peu bizarre, comprenant 9 quartiers. La prochaine fois que vous allez manger une orange, premier quartier, c'est l'amour. Deuxième quartier, c'est la joie. Le troisième, c'est la paix. Oh là là, tout va très bien. Bon, j'arrête là. Hein? Et puis, vous inspirez profondément pour bien digérer. Et aussi pour vous poser cette question, est-ce que je suis rempli de l'esprit ? Peut-être constaterez-vous que vous ne l'êtes pas autant que vous le pensiez. C'est le Seigneur qui vous le révélera. Vous constaterez que votre vie chrétienne est faite de haut et de bas, trop fréquent, trop de faiblesse, de tristesse, de frustration, de défaite. Parce que vous regardez au monde, vous regardez au mode du monde. Vous aurez conscience peut-être aussi de ne pas être autant rempli de l'esprit qu'au premier jour suivant votre conversion. Je viens de le citer. Telle l'église d'Éphèse, tiens, qui avait abandonné son premier amour. Apocalypse 2, 4. Et puis, vous remarquerez peut-être que vous ne voyez rien d'extraordinaire survenir dans votre vie. Il n'y a pas de sensationnel. Il n'y a pas de choses vraiment exaltantes. Vous ne sentez rien. Parce qu'il ne se passe rien. Alors plaçons-nous devant Dieu, frères et sœurs, en toute simplicité. Et demandons-lui de nous éclairer par le Saint-Esprit. Il va le faire, puisqu'il nous aime. Et ce qu'il désire avant tout, c'est notre bien. Alors ne désespérons pas, ne nous décourageons pas. Ne regardons pas aux autres, à ce fameux « qu'en dira-t-on ?» mais regardons au Seigneur et ne nous considérons pas comme anormaux ou moins spirituels que d'autres. Nous avons tendance à nous comparer aux frères et sœurs, n'est-ce pas ? Ah, un tel, enfin bref, vous connaissez la musique. Le Seigneur, lui, nous connaît. C'est ce qui compte. Alors, rappelons-nous que le Saint-Esprit habite en nous. C'est ce que la parole affirme. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Alors il est donc inutile, comme le font certains, de demander à Dieu de nous accorder son esprit, dans la mesure où nous sommes disciples, bien sûr. Parce que cet esprit, nous le possédons. Il habite en nous. Il ne paye pas de loyer, en plus. Il est là. Pourquoi demander quelque chose que nous avons déjà? Ça n'a pas de sens. Soyez remplis de l'Esprit. Laissez l'Esprit vous envahir, prendre la direction de votre vie. Alors, avant de conclure, nous pouvons comparer notre être intérieur à une maison. Une maison à étage. Lors de notre conversion à Dieu, le Saint-Esprit, donc, vient habiter dans notre maison. Alors il entre, forcément. D'abord dans le vestibule, puis le couloir, un salon, salle à manger, la cuisine. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le Saint-Esprit est-il monté à l'étage? Dans la chambre à coucher, qui est en principe la pièce la plus intime. Ah, c'est moins évident. Notre demeure recèle-t-elle un cabinet secret ou un grenier au trésor? Bien que par hasard, vous ne savez plus où vous avez mis la clé. Le Saint-Esprit veut s'installer partout dans notre vie. N'y a-t-il pas une pièce dont nous lui refusons l'accès? Une chasse gardée. Ah non, on n'entre pas. Une chasse gardée. Un musée des souvenirs de notre passé. Pardon, avant notre conversion. Être rempli de l'esprit dépend de nous-mêmes, de notre degré de consécration, d'obéissance. Et nous devons obéir pour parvenir à être agréable au Seigneur, dans ce sens. Alors, en conclusion, être rempli de l'Esprit, ce n'est pas un acquis définitif. Même si l'Esprit habite en nous, il est là. Mais le problème, c'est qu'il puisse agir en nous. Nous devons donc laisser le plus possible de place au Saint-Esprit, en nous conduisant avec sagesse, comme écrit l'apôtre, en n'étant pas des insensés, en rachetant le temps, en comprenant quelle est la volonté de Dieu, en examinant ce qui est agréable au Seigneur, en marchant comme des enfants de lumière. C'est notre tâche quotidienne. C'est la condition de la bénédiction divine sur notre service, sur notre témoignage individuel d'Église. Et plutôt que de rechercher une soi-disant puissance spirituelle, c'est l'aspiration de beaucoup de chrétiens aujourd'hui encore, plutôt que cela, eh bien, soyons, pour reprendre la traduction littérale de notre passage, soyons constamment en train d'être remplis de l'Esprit, afin que celui-ci produise en nous le fruit de l'Esprit. Ce sera la marque que nous sommes remplis. Alors, cette démarche n'est pas très spectaculaire, elle n'est pas tapageuse, mais c'est ainsi que le Seigneur sera glorifié dans nos vies et bénira notre témoignage. Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs de la rue Albert Ier au Creusot, qu'il vous garde, vous réjouisse, et qu'il vous garde surtout rempli de l'Esprit.